In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Depuis plus de 5 ans, j'essaye de documenter cet univers multiforme pour en montrer la richesse et la diversité. Ce monde si particulier qui parle d'un objet aussi archaïque que le livre à l'heure du numérique. Le paysage en Anjou est une véritable mosaïque. Je veux parler des festivals et salons qui n'existent que par la détermination folle de bénévoles, des petites librairies qui maillent le territoire grâce à l'inconscience d'entrepreneurs qui mettent toutes leurs économies personnelles dans leurs projets, des éditeurs qui pensent que donner la parole aux autrices et aux auteurs n'a pas de prix, des bibliothèques nichées au creux des moindres petits villages, elles aussi vivant grâce à l'implication des bénévoles, des autrices et des auteurs qui sont persuadés qu'écrire, c'est important. Et puis il y a les têtes de réseau, les navires amiraux, ces grosses machines qui, elles, ouvrent les portes et les fenêtres pour que les ailleurs entrent aussi en Anjou. Et là, je veux parler des grosses médiathèques, des grandes villes, du Bibliopole, mais aussi de la maison Julien Gracq, voire du Festival Cultissime. Tous ces acteurs ont une existence parce que les collectivités publiques disent toutes que les habitants, la proximité, la vie des territoires, c'est vital. Et qu'il faut les soutenir parce que sans eux, sans elles, les collectivités publiques, elles ne sont rien. Mais cela ne semble finalement pas une règle intangible. La région Pays de la Loire annonce des restrictions budgétaires drastiques dans le domaine de la culture, moins 73%, soit l'équivalent de 100 millions d'euros annoncés pour 2025. Il est à craindre que Radio G soit aussi impacté par cette nouvelle orientation budgétaire. Alors, une seule question qui parodiera le titre de numéro divers de l'excellente revue Dissonance. Que nous réserve l'horizon après l'orage? Aujourd'hui, ce sont les résidents de la maison Julien Gracq que j'accueille une nouvelle fois. Elle et ils sont accompagnés de Jérémy Fabre, son directeur, un homme inquiet. Nous parlerons avec lui de ce nouveau contexte en fin d'émission. Et je vais commencer par faire le tour de table. Donc bonjour Cécile Massin.
Bonjour.
Bonjour Christina Barrios.
Bonjour Luc.
Parlez bien devant le micro, parlez bien fort, on est à la radio, sinon on ne va pas vous entendre et ce serait dommage. Bonjour Yann Gauchard.
Bonjour.
Alors je m'excuse, j'ai une voix qui est un peu en partance là, elle aussi, peut-être que c'est un déficit de subvention de ma part. Bonjour Cécile Massin, à nouveau, vous êtes en résidence à la maison Julien Gracq. C'est un partenariat avec Novetic. C'est quoi le thème de votre résidence?
Alors, le thème de la résidence donc, que je vais faire pendant 3 mois de façon fractionnée à la maison Julien Gracq, c'est les nouveaux imaginaires. Cette thématique des nouveaux imaginaires, comme ça, elle peut paraître assez large, mais l'idée, c'est de partir d'un principe assez simple, c'est que face à la crise environnementale actuelle, on est un peu toutes et tous noyés sous des discours alarmistes qui se comprennent tout à fait, mais que pour pouvoir aller vers des horizons qui soient plus désirables, il va falloir à un moment donné pouvoir justement rêver à de nouveaux imaginaires. Et alors ces nouveaux imaginaires, ça peut être des nouvelles façons de voyager, de consommer, des nouvelles façons d'être dans notre rapport au territoire. Et c'est un petit peu toutes ces thématiques-là qu'il va s'agir d'explorer pendant 3 mois sur une résidence de terrain, donc avec les habitants du Maine-et-Loire.
Alors les auditeurs qui ont l'oreille affûtée auront reconnu en vous la professionnelle, la journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça, rapidement, en quelques mots?
Oui, bien sûr. Moi, je suis journaliste indépendante. Je travaille en presse écrite et en podcast depuis 4 ans maintenant. Je me suis formée donc en autodidacte à Mayotte et puis ensuite j'ai eu diverses expériences. Et donc, à côté de mon travail en presse écrite et en podcast, donc j'anime très régulièrement des ateliers d'éducation aux médias auprès de jeunes adolescents et adultes en radio et en atelier d'écriture.
Alors, ces ateliers comme ça d'éducation aux médias, on connaît bien nous ici à Radio G parce qu'on est labellisé, donc on en anime des dizaines avec effectivement des établissements scolaires, des centres sociaux. Mais j'ai dit tout à l'heure que votre résidence était en partenariat avec Novetic. Novetic, c'est quoi ?
Alors, Novetic, donc, c'est un média qui est spécialisé sur les questions économiques à aborder via le prisme de la transition écologique et sociale. C'est un petit peu sa spécificité parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias aujourd'hui qui abordent ces questions du changement climatique. Mais là, la spécificité, c'est de l'aborder donc via les questions d'économie. Et donc, dans le cadre de la résidence, moi, je vais donc être amenée à écrire pour ce média différents articles dont le fond et la forme vont évoluer au fur et à mesure de la résidence. Mais donc, toujours autour de cette thématique des nouveaux imaginaires.
Alors, vous venez de redonner le thème donc, de cette résidence, les nouveaux imaginaires. Ça semble un projet comme ça ambitieux, un territoire comme les Mauges, il est déjà traversé d'imaginaires. Alors, en quoi vous pensez que de nouveaux imaginaires peuvent l'enrichir ?
Ça va justement être toute la question de la résidence. Moi, j'arrive de région parisienne avec un regard pour le moment très extérieur sur cette région des Mauges. Et toute l'idée, ça va être d'aller à la rencontre des habitants, à la fois pour les accompagner, pour mettre en avant effectivement les imaginaires qui existent déjà sur place. Et puis peut-être pour en inventer ensemble de nouveaux.
Alors, vous dites que vous ne connaissez pas les Mauges. Quand je vous parle de la route entre Jalet et le Pin en Mauges, ça ne vous parle pas, ça ?
Absolument pas pour le moment.
Alors, question aux nouveaux imaginaires, je vous recommande de faire cette route-là.
D'accord.
Ça veut dire que vous allez avoir un travail d'exploration à faire. Vous entendez, vous allez procéder comment, en fait, pour conduire et pour pouvoir, en fait, faire produire ?
Absolument. C'est pour ça que cette résidence, elle dure 3 mois parce que va y avoir vraiment un premier temps d'exploration du territoire. Cette exploration, ça peut être tout bêtement en fait aller se balader, découvrir les paysages, aller à la rencontre des gens qui se promènent. Ça peut aller à la rencontre des acteurs donc associatifs, culturels du territoire. Ça peut être aller dans un café et s'asseoir, essayer de comprendre un peu la façon dont la vie se déroule. C'est vraiment, je pense que c'est important de prendre le temps en fait d'essayer de comprendre ce qui se passe ici. En journalisme, c'est pas forcément du temps qu'on a parce qu'on est aussi beaucoup soumis au rythme de l'info qui est très rapide. Et là, c'est un peu un luxe extrêmement bénéfique de pouvoir justement prendre ce temps de découverte.
Mais le travail de journalisme, c'est les faits, la factualité. Oui. Et vous allez marcher sur un territoire presque en dehors des faits. Les nouveaux imaginaires, on n'est plus dans le fait, mais on est dans l'ailleurs. Alors, c'est un peu un travail presque périphérique à votre métier de journaliste.
C'est très intéressant comme question. Je le vois pas comme un travail périphérique parce que le constat duquel on part avec cette question des nouveaux imaginaires, celle du changement climatique, c'est un constat très factuel, extrêmement documenté. Et c'est de ce constat-là qu'on va partir pour réfléchir. Par contre, je pense qu'effectivement, en abordant cette thématique des nouveaux imaginaires, on peut se donner des libertés dans l'écriture, dans le rapport au son, dans le rapport peut-être à la photo même, qui sont peut-être plus grandes que quand on répond à une commande institutionnelle plus classique, j'ai envie de dire. Et c'est tant mieux. Je pense que c'est des espaces de liberté qui sont importants à prendre, d'autant que sur le changement climatique, on a quand même souvent des façons de documenter ce changement qui sont un peu scolaires, j'ai envie de dire, et que peut-être amener à réfléchir à cette question qui nous concerne tous, peut-être par des formes qui seraient plus proches d'écriture de fiction ou de poésie ou de rapport poétique au territoire, ça peut être des façons nouvelles de sensibiliser à ces questions-là, mais par un biais un petit peu décalé.
Parce que quand on vous entend, on entend journaliste, journalisme, on pense souvent à la plume, à l'écriture, mais vous travaillez aussi avec d'autres moyens, vous travaillez la photo. Faites pas mal de photos. Il y a une sur votre site, je crois qu'il y a une série de photos magnifiques sur des gens qui sont plongés dans l'eau. On ne voit que la tête, hein, c'est ça? C'est quoi cette expo?
Absolument, c'est une série documentaire que j'ai faite à Mayotte, où j'ai vécu un an, sur des trajectoires de personnes en exil et sur leur traversée de l'océan Indien. Et effectivement, la photographie documentaire, moi, c'est une pratique qui m'accompagne depuis une dizaine d'années maintenant. Depuis quelques années, j'ai aussi découvert l'univers du son, qui est un univers qui m'intéresse énormément. Et c'est vrai que sur cette question des nouveaux imaginaires, moi, j'aimerais, dans la mesure du possible, explorer vraiment différents médiums, en fait.
Parce qu'effectivement, vous faites aussi du podcast.
Voilà, donc je fais aussi du podcast, donc dans les ateliers d'éducation aux médias que je fais en région parisienne. Et puis, j'ai aussi des projets de création sonore à côté dans ma pratique de journaliste et de documentariste.
Alors, s'il y a production de podcast dans le cadre de cette résidence, nous sommes vraiment très intéressés pour les diffuser.
Parce que
le thème est passionnant. Moi, je réfléchissais à cette rencontre que nous allions avoir, cette question des nouveaux imaginaires, cette question donc d'exploration du territoire. Et puis je me disais, mais finalement, est-ce que vous n'allez pas être une mailloticienne sur ce territoire-là?
Eh ben peut-être, ça pourrait totalement être l'idée. Moi, j'ai pas envie d'arriver avec des idées préconçues ni sur ce qu'est le territoire ni sur ce qu'en sont les habitants parce que pour le moment j'en sais pas grand-chose et je crois que c'est très bien comme ça. Donc j'ai aussi envie de me laisser surprendre.
Mmh. Vous êtes la résidence a commencé quand?
Eh bien, c'est aujourd'hui. Je sors du train là depuis la région parisienne, donc vous êtes vraiment les tout premiers.
Alors, c'est très intéressant. Vous descendez du train, vous arrivez de la région parisienne. Vous êtes descendu du train où?
À Angers.
À Angers. Donc, vous n'avez pas encore fait cette magnifique voie qui va jusqu'à pas Saint-Florent, mais juste à côté de Saint-Florent. Il faut que vous fassiez ça.
D'accord.
C'est une expédition quand on est dans votre travail d'exploration. Je pense qu'il faut faire Angers jusqu'à Ingrande, c'est ça, en train?
Varade.
Jusqu'à Varade.
Ok.
Je vous recommande ça. J'imagine que quand on vous a parlé des Mauges, il y a dû avoir, comme dans les bandes dessinées, un gros point d'interrogation qui s'est dessiné sur votre tête en disant « C'est quoi ce truc-là ?» Alors, moi, j'ai... Douglas Kennedy, le romancier, il m'a appris un terme qui est utilisé par les Américains pour qualifier les États ruraux du centre des États-Unis. Les Américains appellent ça les « flyover ». C'est-à-dire les États qu'on survole, mais dans lesquels on ne va pas. Est-ce que, alors j'allais vous dire, mais peut-être que vous ne le savez pas encore, est-ce que pour vous, les Mauges, ce serait presque quelque chose de cet ordre-là?
Alors, du coup, là où on ne va pas, donc moi j'y vais. Donc,
oui, mais vous n'y êtes pas allé. Attention.
Mais effectivement, voilà. J'y suis pas allé. C'est difficile de savoir si j'y serais allé autrement que par cette résidence. Moi, je suis une grande fan de vélo, donc j'ai beaucoup fait des parties de la Loire à vélo, mais pas vers ici. En tout cas, je suis très contente de m'y arrêter et effectivement de sortir un petit peu des grandes villes. Je pense que c'est aussi important et qu'il y a une partie du journalisme qui est très concentrée en région parisienne pour tout un tas de raisons et que c'est important de se décentrer. Moi, j'ai travaillé un an, rien à voir, mais dans le village de Sainte-Ménéhoult, dans la Marne, où c'est quelques milliers d'habitants. Et finalement, c'était presque tout aussi des paysans que d'aller vivre un an à Mayotte ou un an à Beyrouth. Donc, je suis ravie. De venir aussi dans ce territoire à une échelle très différente de celle que je peux connaître et de celle où j'habite actuellement.
Alors, quand on arrive, du moins, on a un projet résidence, on y a travaillé. Moi, j'ai lu votre note d'intention, très, très dense, en fait, avec beaucoup, beaucoup d'intention. C'est quoi, au regard de la thématique, les nouveaux imaginaires, mais le développement durable. Enfin, il y a une connexion entre ces deux choses-là.
Oui.
C'est quoi la thématique qui vous tiendrait à cœur de voir réaliser sur un territoire qui est inscrit dans la ruralité profonde?
Je crois qu'une des thématiques qui m'intéresserait beaucoup, ce serait celle de quels nouveaux imaginaires de voyage on peut développer et du coup quels nouveaux rapports à son territoire on peut développer. On entend beaucoup le fait que il faut réduire les grands voyages, les grands trajets en avion, etc. Je pense que pour, enfin c'est évidemment important de le faire, mais ça demande aussi de se réinterroger sur nous, ce qui nous entoure et ce qui fait qu'à un moment donné on a envie de découvrir ce qui se passe en bas de chez soi finalement. Et là, dans ce cadre-là, moi par exemple, j'avais imaginé qu'on puisse faire des capsules, des petites capsules sonores, donc des petites cartes postales avec des enfants ou des ados, du territoire du Maine-et-Loire et qui puissent, avec leurs yeux, nous faire découvrir leur chez eux. Et par exemple, ces petites capsules qui pourraient être imaginées, ce serait qu'à la fin, une fois qu'elles sont réalisées, qu'on puisse les faire écouter en fait dans certains endroits du territoire in situ. Ça fait partie des projets que j'ai imaginés. Encore une fois, c'est des choses qui vont certainement être amenées à évoluer, mais en tout cas reconsidérer ce rapport au voyage pour du coup se réinscrire très fortement dans le territoire autour de chez soi, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment m'intéresser, ouais.
Le voyage dans le proche.
Exactement, ouais. Le voyage en bas de chez soi, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup entendu après le Covid parce qu'on n'a pas tellement eu le choix. Mais je crois que réinvestir l'espace de proximité immédiate, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, ouais.
Eh bien, Cécile Massin, je vais vous remercier. D'abord, j'ai été totalement impoli, donc je vous souhaite la bienvenue
merci
à Angers, la bienvenue dans les Mouges. Je vous souhaite une résidence riche et puis on va faire une première pause musicale.
Merci.
Je tuais le temps en regardant le monde et l'horizon, comme si je pouvais le toucher du doigt. Tout me semblait possible. Et puis parfois, je t'invitais à venir chez moi dans ce monde si étroit, nous deux si proches. Et maintenant, je suis là sans toi.
d'écouter la semaine un titre du nouvel album de The Loire Valley Calypso. Vous êtes bien sur Radio G et vous écoutez l'émission Entre les Pages. Je reçois aujourd'hui Cécile Massin, journaliste, Christina Barrios, architecte, et Yann Gauchard, romancier et journaliste. Bonjour à tous les deux, Christina et Yann. On vient d'écouter Cécile Massin et puis hors micro, mais on peut dévoiler ce qui se passe hors micro. J'entendais dans la voix de Yann de l'envie à la suite des propos de Cécile. Vous êtes un binôme sur la même résidence, une résidence qui s'intitule Hors Sentier. Christina Barrios, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Oui.
Bon, ça y est, c'est fait.
Alors, je suis architecte, je suis franco-vénézuélienne, je suis architecte de profession, c'est-à-dire praticienne. J'interviens également comme enseignant à l'école d'architecture de Nantes. Et j'ai une approche un peu particulière par rapport à la narration.
Attendez, là, ça m'échappe. Narration, architecture.
Tout à fait. Il se trouve que je suis également scénographe et issue de l'école d'architecture, donc avec un bagage, un apprentissage de la narration dans le milieu de théâtre.
Très bien, je comprends mieux. Et vous, Yann Gauchard, alors présentez-vous.
Eh bien, moi je suis journaliste, hein, ça c'est ma profession, c'est ce qui me fait
officiel
vivre aujourd'hui. Oui, voilà. Tout à fait. Donc je travaille dans un quotidien à Nantes qui s'appelle Presse Océan. Je suis correspondant du Monde aussi en Loire-Atlantique. Et j'ai écrit un roman qui s'appelait Le Cas Annunziato, qui est paru aux éditions de Minuit en 2016. Et donc, c'est ma première résidence et j'ai eu la chance en fait, d'être contacté initialement par Christina Barrios parce qu'elle avait beaucoup d'idées pour celle qui avait vraiment envie de candidater pour cette résidence, cet appel à candidature que personnellement, je n'avais pas vu. Mm-hmm. Et on s'est rencontrés dans un café.
Alors déjà, rapprochez-vous un peu du micro,
oui,
parce que la presse écrite, c'est sur le papier, mais la radio, c'est quand même dans les micros.
Tout à fait.
C'est vraiment beaucoup mieux. Mmh. Effectivement, une architecte, un journaliste romancier, malgré tout. Comment il s'est constitué ce binôme qui est un petit peu étrange?
Il s'est constitué issu d'une commande qui a été réalisée en conjoint entre la Maison Julien Gracq, la Maison d'architecture de Pays-la-Loire et Moche Communauté. Et dans cet appel à projet, des candidatures, la demande y a été d'inviter un binôme créé par un architecte avec une appétence dans le graphisme et un auteur qui soit déjà édité en maison d'édition avec un penchant sur la fiction.
Alors, là vous répondez complètement au cahier des charges. Mm-hmm. Une architecte avec du graphisme. Moi j'ai vu quelques dessins de vous, donc vous savez dessiner. Un romancier qui est publié, Yann Gauchard, vous êtes romancier, vous avez été publié avec cet étrange livre, Le Cas d'Annunziato, c'est ça ?
Le Cas Annunziato.
Le Cas Annunziato. Pour vous, Christina, puisque c'est vous qui êtes à l'initiative, il a fallu trouver un auteur. Et Yann Gauchard, vous l'avez trouvé comment, en fait ? En feuilletant un annuaire, en lisant Presse Océan et en voyant une signature ?
Non. non, c'est très difficile de dénicher un auteur, vraiment très difficile. Yann, en l'occurrence, je l'ai connu au départ par le biais de son livre, mais également par le biais des connaissances en commun. On a fait une rencontre il y a peut-être 4 ans. Où il animait une présentation d'un premier roman de quelqu'un que je connais. Et avant cette présentation, j'avais lu le livre qu'il avait son roman, que j'avais trouvé génialissime. Et on avait discuté à l'issue de la présentation, on avait discuté sur son livre, on s'est présenté. Et au moment de la candidature, j'ai pensé à lui parce que, déjà, il a répondu au cahier des charges, mais notamment aussi parce que j'aime beaucoup son écriture, sa drôlerie. Son
impertinence.
Exactement, son façon inattendu d'amener les choses.
Alors, l'impertinence, on la lit, Yann, dans votre écriture. Alors, peut-être dans la première partie de votre roman, dans la deuxième partie, c'est un peu moins, ça devient plus dramatique, enfin, à mes yeux, plus dramatique dans ce roman. Mais vous avez rédigé un petit texte qui raconte votre rencontre autour de cette résidence. Ça se passe dans un café et vous sembliez dubitatif. Hein.
Oui, tout à fait. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Mais je parlais très loin du micro, donc personne ne m'entendait. Non. Effectivement, quand on s'est rencontré avec Christina, au départ, la connaissance, je me suis dit, je vais aller à ce rendez-vous pour lui dire pourquoi je vais lui dire non, parce que je me sentais absolument pas capable de je me sentais pas les compétences en architecture pour pouvoir postuler à cette résidence. Et puis j'étais pas mal débordé par ailleurs, mais dans le café, Christina m'a montré quelques dessins qu'elle produisait par ailleurs. Et c'est quelque chose, vraiment, j'avais une très grande envie d'essayer de travailler avec quelqu'un qui dessine. Sauf que, souvent, je ne trouvais pas, les dessins ne me parlaient pas, ce n'était pas l'univers qui me correspondait. Et là, elle m'a montré quelques planches, et franchement, j'étais complètement envoûté par son univers. Et donc, je lui ai dit non, mais j'ai repris le bus. Et dès que je suis monté dans le bus, j'ai commencé à écrire un petit texte qui pourrait peut-être être le prologue au final du récit qui sortira après, du récit dessiné. En tout cas, c'est un texte qu'on a présenté pour postuler, avec des dessins de Christina, évidemment, pour postuler à la candidature, à l'appel à projet de candidature, parce que en fait, on avait envie d'assumer un côté décalé, et y compris de dire que voilà, on ne connaissait pas les Mauges, mais qu'on avait évidemment envie de découvrir les Mauges. Alors, Christina avait imaginé, et je vais peut-être te laisser la parole là-dessus, mais elle avait imaginé des moyens des itinéraires à travers des matériaux, les gisements de matériaux qu'on allait retrouver dans des bâtiments, puisqu'il fallait quand même parler du patrimoine de Mauges Communauté, du patrimoine assez récent. Et en fait, ces rencontres, c'était surtout... Ces itinéraires, c'était surtout des prétextes pour essayer d'engranger des rencontres et des histoires, ou en tout cas en faire naître.
Alors, il y a malgré tout... j'imagine que... Il y a une interrogation. Ce fameux texte dont vous parlez, qui sera peut-être le démarrage de la relation écrite de ce travail que vous êtes en train de conduire. Donc, nous, on est en Anjou, hein, et les Mauges, ça reste encore en Anjou. Et donc, les visions irrédentistes de Nantes, elles nous gênent toujours un peu, en fait. Et commencer un texte par « Les Mauges débutent à Nantes », c'est quand même un peu fort de café, parce que les Mauges finissent à Saint-Florent-le-Vieil, mais elles ne commencent pas à Nantes.
Oui, absolument. C'est une pure provocation. C'était.
Ah ben, c'est réussi.
C'était réussi, justement. Oui, non, c'était pour essayer de déclencher quelque chose, de retenir l'attention. Mais de fait, pour moi, elles commenceront toujours à Nantes, parce que la première fois où j'ai envisagé le fait vraiment de me plonger durablement quelques semaines dans les Mauges, c'était dans un café à Nantes, sur l'invitation de Christina Barrios, qui, effectivement, a réussi à me convaincre en un tour de main d'y aller.
Alors, cette résidence porte le nom de Hors Sentier. Donc, Hors Sentier, ça complète un peu ce que vous venez de dire, Yann. Il va falloir aller traverser ce territoire, pénétrer ce territoire, avec une thématique autour des bâtiments, du bâti, Hein, ça, c'est une des préoccupations. C'est presque c'est un travail de documentaliste, d'archiviste, d'encyclopédiste que vous allez faire.
C'est un peu tout ça et rien du tout de ça.
Bon. Donc, si c'est rien du tout de ça, ça sera quoi alors?
C'est notre expérience et notre vécu à nous deux dans ce territoire-là qui a été un peu. On s'est fait une carte, une feuille de route pour le découvrir, où on a fait des découvertes, notamment des personnes qui ont été très attachantes et qui ont fait partie de notre narration. Mais ça ne veut pas une guide d'architecture, ça ne veut pas une... nous, on veut... C'est plus une expérience à part, bien à nous, de ce que quelqu'un comme nous peut apprécier de ce triangle qui s'appelle Limoges.
Ça s'attache autour de constructions remarquables ou ordinaires. Qu'est-ce que vous avez déjà... quelles constructions remarquables ou ordinaires vous avez déjà retenues ou ont attiré votre attention ou sont pour vous quelque chose d'exemplaire ou de très spécifique sur ce territoire que vous avez exploré?
Je ne sais pas si j'aimerais bien raconter ça. J'ai plus envie de raconter, en tout cas de vous parler. Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont attiré notre attention parce qu'ils ont été le fruit d'un travail ou d'une histoire précise et d'un moment précis. Qui ont attiré notre attention pour ça, pas pour cette côté remarquable de l'architecture. D'ailleurs, là, il y a cette commande qui s'est faite une partie de la commande s'est faite sur le patrimoine architectural ou le patrimoine des Mauges des 100 dernières années, mais il n'y a pas que ça. Il y a notamment et surtout le fait qu'il y a un regroupement de plusieurs communautés qui sont devenues Mauges communautés et fractionné en 6 communautés, et il fallait trouver une identité commune, quelque chose qui les unisse et qui puisse parler, c'est une sorte d'ADN qui puisse les réunir, et c'est cet ADN-là, cette identité commune, cette culture que nous avons été débusqués par nos arpentages et par les entretiens qu'on a faits. Là, le protocole que nous, on a réalisé, il était basé sur la découverte du patrimoine architectural à partir des matériaux de construction, des 3 gisements précis qui étaient l'argile, le schiste et le calcaire. Mais alors, du coup, ce qui était intéressant, c'était voir ce lieu des gisements, et voir les gens qui font l'extraction, voir les gens qui vont le transformer, qui vont faire un matériau de construction, qui vont faire du bâtiment, qui vont vivre le bâtiment et qui vont faire d'histoire. Donc, c'est un peu tout un tissage plutôt social, économique, architectural, qu'on essaye de tisser nous-mêmes par cette histoire que Yann est en train d'écrire.
Alors, quand je parlais de qu'est-ce que vous avez remarqué, là vous donnez dans les éléments de réponse que vous donnez, vous dites, oui mais nous on est entré par une autre porte. On est entré par ce qui est constitutif de ce patrimoine, comment il a été construit, quelle image il donne à partir des éléments avec lesquels il a été construit. Dans le thème de la résidence, c'est remarquable ou ordinaire. Ordinaire, ça porte bien son nom. Moi, je repense à une anecdote que vous citez, Yann, dans les premiers écrits, vous parlez de la rencontre, alors j'ai plus le nom de la personne, autour des Ursulines à Bottes-en-Mauges, qui a rien d'extraordinaire, objectivement, ce bâtiment-là.
Non, non, mais c'est ça qui était extrêmement plaisant. D'abord, on a eu une chance inouïe, c'est que, et je le dis à Cécile, parce qu'on a eu cette chance-là, on a frappé à toutes les portes, personne ne nous a jamais laissé la porte fermée. Et parfois, ça a été un peu compliqué, le temps de discuter, d'expliquer, parce qu'on est vraiment rentré chez des gens pour pouvoir parler du passé. Et ça a été, en fait, ce qui est incroyable, c'est comment les lieux se répondent les uns aux autres. On est arrivé la première semaine, on a eu la chance d'être parachuté dans la friche Synergie à Saint-Pierre-Montlimard. Oui, c'est Saint-Pierre. Et c'est incroyable parce que c'est l'histoire de ce bâtiment. Ancienne usine Lacroix, avant construction de lampes, d'écrans télé, d'ordinateurs. Et encore avant, c'était vraiment la compagnie des lampes qui était à Saint-Pierre parce que le châtelain qui avait ouvert la mine d'or, parce qu'il y a eu de l'or à Saint-Pierre-Montlimard, avait ouvert cette entreprise, cette compagnie des lampes, pour donner du boulot, notamment aux femmes des mineurs. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un mur aujourd'hui dans cette usine, et derrière, il y a Eram qui est à Saint-Pierre-Montlimard. Donc ça nous a renvoyé et à la mine, et au bâtiment Eram, qu'on a été explorer. On a été voir les anciennes cités ouvrières de mineurs. On a pu rentrer chez une dame qui nous a accueillis très gentiment. Et donc, on a visité cette maison qui est restée dans son jus. Et tout ça, ça nous a renvoyé en fait sans cesse à d'autres bâtiments, notamment par exemple le Cercle Pointu à Chemillé, où c'est, là encore, on a un bâtiment avec les fameux toits en chêne. Et puis, du coup, la friche Synergie dont on parlait tout à l'heure, on essaie de lui donner vie aujourd'hui en amenant différentes activités, alors qui sont essentiellement autour de l'économie circulaire, des matériaux de récupération. Mais il y a aussi, je le dis très gentiment, un petit côté foutraque, parce que il n'y a pas eu encore de programmiste qui est intervenu. Donc, chacun se positionne dans le bâtiment un peu de façon un peu, c'est un peu de bric et de broc. Et quand on va au Cercle Pointu, eh ben, cette fois-ci, c'est privé. Mais il y a un gars qui a investi, qui avait besoin de 500 mètres pour stocker des matériaux. Et il a investi un bâtiment qui fait je ne sais plus combien de milliers de mètres carrés. Et il s'est dit, je ne vais pas utiliser que 400 mètres carrés que pour moi. Et il a fait venir d'autres personnes. Alors aujourd'hui, dedans, il y a un céramiste, il y a un brasseur, il y a des traiteurs. Et c'est assez incroyable, ces côtés. Il y a un côté, nous, qui nous a interpellés, je fais exprès. Mais c'est assez drôle parce que les Mauges, ça a quand même une tradition de centre-droit, il faut se le dire. C'est plutôt...
On peut le dire.
On peut le dire. Et à la fois, tout le monde dit qu'on ne fait pas trop de politique. Et à la fois, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a des vraies initiatives qu'on pourrait presque dire de gauchistes. Parce que le Cercle Pointu, de faire venir comme ça des gens qui payent le loyer selon leur revenu initialement, c'est un projet quand même... plutôt utopiste finalement, quoi. En tout cas plutôt extrêmement social, etc. Quand on voit juste à Chemillé les éoliennes qui sont portées par des collectifs citoyens, donc des gens qui sont propriétaires des éoliennes, c'est juste assez incroyable. Et c'est ça aussi finalement les Mauges, cette force incroyable de... En tout cas nous, ce qui nous a séduit, c'est d'aller d'un point à un autre, de rencontrer des histoires, et puis... d'en faire parfois de la fiction, parfois du matériau réel, et surtout de peut-être d'essayer de sentir quelque chose, en tout cas d'un peu de l'esprit des Mauges, et de créer quelque chose, en tout cas à partir des rencontres. Finalement, les rencontres peut-être étaient aussi importantes que le patrimoine.
Alors justement, là, on entend dans l'énergie que vous mettez à raconter.
Je suis totalement emballé, pardon.
Oui, mais ça s'entend, on l'entend. L'énergie que vous mettez à raconter toutes ces rencontres, tous ces lieux, il a fallu les découvrir. Vous avez utilisé quel moyen de locomotion, Christina, pour aller d'un endroit à l'autre, en voiture, à pied
L'idée de la découverte de l'arpentage, c'est le faire à des temps plutôt longs. Donc, on avait fait... chaque arpentage avec un moyen de locomotion long, donc un à pied, l'autre était en vélo. Il y avait eu un troisième, mais on avait tellement de matériaux qu'on ne l'a pas fait, mais il devait être en canoë.
En canoë. Et en montgolfière.
Et en montgolfière, ouais, c'était
une expérience.
C'est une expérience de voir, avoir un regard depuis le haut de ce territoire. Mais bon, finalement, il y a quelque chose que je pense qu'on arrive à se dire, en tout cas, moi, je me le dis, c'est que le patrimoine des Mauges, c'est les gens.
C'est ce qui a été relaté. Cécile Massin, dans sa présentation, faisait référence à l'article du Monde de février 2022 qui disait que les Mauges étaient le territoire le plus égalitaire de France, mais qui racontait ce territoire-là de manière tout à fait passionnante. Enfin, pour une fois, un article de journal qui raconte un territoire et ses habitants, et je trouvais que c'était vraiment, vraiment une lecture intéressante. On va être obligé de faire une deuxième pause musicale. C'était un extrait du titre « Poisson ivre » de Titi Robin. Cela fait partie de son nouvel album qui sortira le 6 décembre prochain et qui s'appelle « Le sable et l'écume ». Vous écoutez toujours « Entre les pages », l'émission qui parle du monde des livres en enjeu, et ce n'est que sur Radio G, fréquence 101.5. Alors tous les trois, vous avez exploré ce territoire à pied, à vélo, en voiture. Et je l'ai dit en fin de rencontre avec Christina Barrios et Yann Gauchard, aussi en montgolfière. Vous y êtes peut-être arrivé en toi. Et je me rends compte que la question que je suis en train de poser est complètement absurde, puisque Cécile Massin n'a pas visité ce territoire du tout, donc elle ne peut pas y répondre. Donc pour Christina et Yann, si je devais vous demander à chacun votre image des Mauges, ce serait quoi, Christina?
Et pour moi, c'est la résilience. C'est la résilience des gens. C'est des gens que on Ils se trouvent dans des situations, des impasses économiques, et ils arrivent à trouver une solution pour inventer quelque chose de neuf qui fait de remarrer la machine.
Donc c'est plutôt un état d'esprit.
C'est plutôt un état d'esprit.
Plutôt un état d'esprit qu'une image. Hein. Et pour vous, Yann, ce serait quoi s'il y avait une image des Mauges?
J'aurais répondu exactement comme mon binôme, mais je peux vous faire une transition. Je peux dire aussi que c'est la maison Gracq, parce qu'on a plein d'inquiétudes pour la maison Gracq. Et ça vous ferait une très bonne transition.
Oui, mais c'est moi qui commande, dirige. C'est moi qui dirige. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je vais continuer de faire ce travail-là.
Merci.
Je sens le journaliste en vous qui trépigne d'impatience. Mais voilà. Donc, la maison Julien Gracq, oui, ça peut être effectivement plus moche que ça, c'est pas possible. Il doit y avoir une production en fin de résidence. Enfin, voilà. Comment ça, vous appréhendez cette étape et ça va prendre quelle forme?
Alors, depuis le départ, on a présenté cette fin de résidence comme un imprimable protéiforme qui réunira des cartes, qui réunira des écrits, la BD. Et des dessins.
Donc un objet.
Donc un objet.
Est-ce que ça veut dire que l'écriture est déléguée automatiquement et nécessairement à Yann Gauchard?
Tout dépend de ce que vous appelez l'écriture, mais il y a une écriture visuelle qui va exister et il y a une narration visuelle et elle est... C'est moi qui l'ai fait.
Ben voilà, il suffit de le dire tout simplement. Et donc Yann, est-ce que ce prologue, parce que vraiment ce prologue, il est magnifique quand même. Enfin, en l'état, c'est quelques mots griffonnés, quelques pages griffonnées qui donnent à la fois le côté un peu décalé de la rencontre, les interrogations quant à la possibilité de le faire, et puis tout d'un coup la compréhension que finalement, si c'est une bonne idée, est-ce que ce texte, il peut être effectivement le prologue de cet objet qui va sortir de cette résidence?
Pour l'instant, ça l'est. En l'état, au moment où on se parle, il est toujours là, le texte, alors peut-être un peu plus resserré. Après, ça dépendra aussi du nombre de pages. Voilà, il y a plein de petites choses à voir. Alors là, c'est de la tambouille, mais de savoir quelle place on va disposer après, parce qu'on peut couper, voilà, et c'est pas très grave, parce que l'important c'est de l'ensemble, que les BD, que le texte se répondent et donnent une petite image des Mauges. On n'a pas du tout la prétention de d'être exhaustif, certainement pas. On n'a pas la prétention d'avoir tout compris, mais je pense que les rencontres qu'on a faites, elles étaient suffisamment fortes pour que ce qui sera rendu soit juste quand même un minimum.
Oui, on a bien compris qu'il s'agit, même si moi j'ai utilisé le terme tout à l'heure d'encyclopédiste, il ne s'agit pas d'une encyclopédie des Mauges qui est faite, c'est plutôt si on utilise pour définir le terme résilience, on est dans une relation sensible à un territoire qui est plus construit autour d'émotions, effectivement, de rencontres, que d'images inscrites, gravées dans le marbre et définitives sur les Mauges. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette rencontre. Merci aussi à vous, Cécile Massin, puisque toutes les questions que j'avais posées postulaient que vous étiez déjà là et il s'avère que vous n'y étiez pas là. Donc,
faudra que je revienne alors.
Il va falloir donc revenir nécessairement. Et je me retourne vers Jérémy. Jérémy Fabre, bonjour.
Bonjour.
On vient de l'entendre, l'activité de la maison que vous dirigez n'est pas seulement un refuge pour autrices et auteurs, c'est aussi un lieu d'action dans le territoire, un lieu de réflexion, c'est aussi un lieu de prospection. Quels autres mots vous utiliseriez pour parler de cette maison ?
En fait, c'est tout ça à la fois, c'est-à-dire qu'un lieu de résidence, c'est un lieu, alors c'est très particulier aussi au legs de Julien Gracq, mais un lieu de résidence qui a été voulu par une personne de son vivant, qui aujourd'hui fait partie du patrimoine littéraire français et qui est dédié au futur du patrimoine littéraire, artistique et scientifique de par la résidence, de par le fait d'accueillir la création contemporaine sous toutes ses formes, principalement littéraire mais pluridisciplinaire, révèle aussi un territoire, c'est-à-dire que qu'on est à la fois dans un imaginaire, donc par exemple le projet de Cécile Massin, d'auteur, de romans, de fiction par exemple, mais aussi sur un territoire avec des actions qui viennent révéler ce territoire-là. Donc la résidence de Yann et de Christina, qui est également portée par la Maison Régionale de l'Architecture et Novetic, mais également des actions en direction des habitants de ce territoire. C'est-à-dire que toutes les interventions que l'on peut porter dans les écoles primaires, dans les lycées, dans les collèges, dans le lycée Julien Gracq des Mauges, que l'on peut porter auprès des EHPAD, que ce soit à la Pommerée, à l'Institut psychothérapique du Pas en Mauges, et plus largement sur tout le territoire régional du Mans à Angers, en passant par Laval jusqu'à Nantes, font de ce lieu un lieu qui cherche à donner à voir et à faire connaître ce qui peut aujourd'hui exister de plus beau, c'est-à-dire révéler une forme de sensible et de créativité dans la société dans laquelle on vit.
En vous écoutant, en écoutant les résidents actuels, ils viennent chez nous, ils viennent à la maison Julien Gracq, ils viennent sur le territoire. Mais en vous écoutant, vous, on entend toutes les ressources qui sont mobilisées, toutes les interrelations qui se nouent. Est-ce que vous considérez que la maison Julien Gracq, c'est aussi un acteur à part entière du territoire ?
Alors, c'est un acteur qui est à la fois intégré à son territoire, parce qu'il est implanté, et puis bien implanté, hein, on est quand même... pour ceux qui connaissent la maison Julien Gracq, donc on a en hiver les pieds dans l'eau, en été un peu moins, mais qui est implanté dans son territoire, qui est marqué aussi, puisqu'on est une maison des illustres, donc il y a un volet très patrimonial. Et j'en oublie d'ailleurs le début de la question, du coup.
Parce qu'on parle d'invités, on parle d'interrelations, mais moi la question que je posais, c'était est-ce que vous êtes un acteur du territoire ?
Alors en fait, on a un acteur sous différentes formes. C'est-à-dire qu'on a un acteur puisqu'on a un lieu qui va faire lien entre les habitants, mais aussi entre des structures du territoire et hors territoire. Donc on va travailler en collaboration avec les acteurs du territoire. Donc par exemple, vendredi, après-demain, à 19h, l'ouverture de résidence de Cécile Massin a lieu au château de la Turmelière, où il y a les ruines de Joachim Dubélé, donc un autre auteur
Les ruines du château.
Les ruines du
pas
château.
Du Joachim,
ah oui,
bah
oui. J'ai raccourci la phrase. Les ruines du château de Joachim Dubélé, qui se trouve voilà, à Liré, à quelques kilomètres. Donc on travaille avec le château de la Turmelière dans le cadre de cette ouverture de résidence. Yann et Christina avec la Maison Régionale de l'Architecture. Donc on va travailler en fait avec tous les acteurs, les autres acteurs du territoire, mais on est aussi acteurs du territoire de par les interventions de médiation et d'animation que l'on peut faire dans toute la zone qui nous concerne, c'est-à-dire un rayonnement régional, voire national, puisque l'année dernière on était à l'École Normale Supérieure à Paris pour un colloque et samedi dernier nous avons accueilli l'Université Sophia de Tokyo pour un colloque Gracq et les poètes.
En quoi c'est important de défendre ce patrimoine, du moins de préserver l'héritage de Julien Gracq ? En quoi c'est important ?
Alors déjà, il y a un devoir moral, je crois, une forme de contrat moral. C'est-à-dire que donc nous sommes une association qui a été créée par la région des Pays de la Loire et la commune de Saint-Florent-le-Vieille, donc à l'époque par le président de région Jacques Auxiette et le maire de Saint-Florent-le-Vieille Hervé de Charette, qui ont accepté ce legs qui avait une condition d'en faire un lieu de travail et de repos pour les artistes et les auteurs. C'est quand même assez beau de se dire qu'un monument, le dernier des grands classiques de la littérature française, va donner un lieu patrimonial pour en faire un lieu de création de la littérature contemporaine. Donc il y a ce devoir moral-là. Et ensuite, il y a tout le projet qu'on porte depuis plus d'une dizaine d'années, c'est-à-dire de construire un projet sur le long cours pour créer le patrimoine, on espère, de la littérature française, avec une inspiration qui est liée à l'environnement de Gracq, c'est-à-dire le paysage. Cette Loire qui passe au pied de la Loire, la vue sur l'île Batailleuse, mais pas que. Toutes les déambulations, que l'on peut organiser aussi dans le territoire des Mauges, dans le Choletais, puisqu'on a un partenariat, par exemple, avec les bibliothèques du Choletais, où on a des balades littéraires. Toutes ces actions-là, en fait, vont infuser dans les résidences que l'on peut porter ou co-porter.
Alors, on l'a entendu, hein, ça fait la une de la presse, même la presse nationale s'en fait l'écho. La région a pris des décisions, semble prendre des décisions qui sont radicales par rapport au financement de la culture, puisque c'est 73% du budget qui va être retiré du budget de la culture. Isabelle Leroy, dans un tweet, bien que je déteste ce média, le tweet m'insupporte, mais malgré tout, certains y recourent à ce média dont le patron est Elon Musk, dit finalement, il faut que la culture finalement se retourne vers les financements privés. Est-ce que c'est imaginable pour un lieu comme le vôtre ?
Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que l'objet de la maison Julien Gracq, c'est de faire déjà de l'aide à la création et d'accueillir des artistes et des auteurs en résidence. Donc, une résidence, c'est trois choses. C'est un lieu, donc on a la chance d'avoir la maison Julien Gracq, un accompagnement, donc ça veut dire une équipe qui est en capacité d'accompagner, de mettre en relation les résidents avec les acteurs du territoire, et une rémunération. Une indemnité plutôt, donc une bourse de résidence qui est versée en droit d'auteur. Donc déjà le modèle, on va dire, entre guillemets, économique est rentable, mais sur le long cours. C'est-à-dire les retombées de la création d'un livre, on finance en fait toute une filière du livre d'une certaine façon. Ensuite, est-ce qu'on peut se tourner vers des acteurs privés ? Ben oui, il y a des fondations. On vient de gagner avec un 18 mois de résidence qui sont financés par la Fondation de France. Donc ça existe, on peut avoir des cofinancements. Il faut le temps de réinventer un projet culturel. Après, je crois que les acteurs publics sont aussi très importants. C'est-à-dire que les interventions que l'on va porter dans les lycées de la région, dans les collèges, dans les prisons, c'est un travail et c'est un contrat avec le public. Donc il faut que tout le monde participe au financement des actions qui bénéficient à tout le monde.
Je vais vous remercier, l'émission arrive à sa fin. Je vais vous remercier, Jérémy, d'être venu à nouveau nous parler de cette institution. Parfois, le monde semble incertain, voire instable, mais le vers d'Aragon se vérifie une nouvelle fois. Rien n'est jamais acquis. Et entre les pages, c'est fini. Dans les événements, à noter sur vos agendas. Demain, c'est un bouillon, une rencontre littéraire pour inviter Yves Ravet. Ce sera dans la Serre du Quai, encore un lieu qui probablement verra ses subventions diminuer. Et puis, ne pas manquer, parce que le programme est beau, la deuxième édition du Salon La Plume Assassine, le 30 novembre et le 1er décembre, à la Chapelle du Genet, un beau lieu, un beau nom de village, hein. Un superbe brochette d'auteurs et d'autrices sont invités, c'est du polar. Et voilà, donc ça c'est pour les événements à venir. Au cours de l'émission, vous avez entendu The Loire Valley Calypso, qui a chanté la semaine et un extrait de Poisson Ivre, un titre du prochain album de Titi Robin. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G, à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 4 décembre à 17h avec une rencontre avec Timothée de Meillet pour son nouveau roman « Le tumulte et l'oubli » aux éditions Asphalte. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis le magazine Topette, animé par Pierre Benoît et toute sa petite bande. Je vous souhaite une excellente soirée et maintenant...
In 500 meters, go straight and then go straight.
Générique.